Quand vient le premier culte de l'année, il y a toujours une expectative, parce qu'il y a une directive qui est donnée, et tous les pasteurs, c'est ce que font les pasteurs, ils donnent une direction. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, la direction était tous les mois, vous avez eu ce même petit dessin sur dans votre boîte mail. Et l'année dernière, c'est ne ménageons ni la chèvre ni le chou, c'est-à-dire ne faisons pas de compromis. J'ai entendu, tandis que vous partagiez les uns et les autres, que cette parole vous a beaucoup aidé. Et combien de personnes ne m'ont pas dit, mais tu sais, pasteur, moi, grâce à cette parole, eh bien, il y a des décisions que j'ai prises, il y a des choses que j'ai osé dire, il y a d'autres choses auxquelles j'ai mis un terme, mais en tout cas, cette parole-là m'a aidé à ne plus faire de compromis. Je dois dire que ceux qui n'ont pas tenu compte de cette parole, eh bien, sont plus loin dans le compromis qu'au début 2016. Sont plus loin dans le gris, c'est-à-dire les choses sont moins claires. Je suis là, mais je ne suis pas. Je fais ci, mais je ne fais pas cela. Alors, cette parole-là, ne ménageons ni la chèvre ni le chou, elle est toujours valable. Elle est toujours valable pour 2017. Mais il y a encore autre chose qui s'est ajoutée à la parole de 2016. Il y a un rabbin qui, lui et son frère, tiennent une librairie dans la vieille ville à Jérusalem. Et franchement, les textes qu'il commande des Écritures, ces commentaires sont tellement riches. Et voici ce qu'il dit dans une étude qu'il a écrite sur le livre de Deutéronome. Il dit « De nos jours, la notion de temps provient de la culture helléniste, c'est-à-dire grecque. Il est perçu comme une ligne linéaire qui va d'un point A à un point B, à un point C, à un point D, etc. C'est-à-dire, ce mouvement ne va que de l'avant, laissant le passé derrière lui. Mais, dans la pensée juive et biblique, les dates spécifiques et des temps sont définis. Ce sont des rendez-vous divins. C'est-à-dire que le temps est ponctué de rendez-vous divins qui sont indiqués par des dates. Par des fêtes, vous avez toute une étude sur les fêtes de l'Éternel, eh bien, notamment, ça ce sont des rendez-vous divins. Et ces temps et ces dates définies par l'Éternel sont des entrées, Mika, des portails, par lesquels le temps coule de manière cyclique et en spirale ascendante. Alors tu peux changer, pas trop rapidement, mais tu peux changer. Les dates spécifiques, les temps définis, c'est-à-dire des rendez-vous divins, sont des entrées, des portails par lesquels le temps s'écoule de manière cyclique et en spirale ascendante vers un but. Le rabbin Moshe Shapiro de Jérusalem enseigne que le mot « temps » qui est « zman » dérive de la même racine que le mot « rasmana » qui veut dire « invitation ». C'est-à-dire que dans la pensée biblique, le temps n'est pas une rivière affolée qui nous emporte dans l'inconnu, loin de notre commencement, mais c'est une invitation à une destinée fixée et à des rendez-vous que Dieu a établis. Mais c'est énorme. C'est-à-dire que Nous sommes à l'aube de l'année 2017, 5777 selon le calendrier biblique, et on va revenir sur ces chiffres. Mais vous et moi avons des projets, et j'espère que vous avez mis par écrit les projets que vous avez pour cette année, que ce soit sur le plan personnel, que ce soit sur le plan social, relatif à votre carrière, vos enfants, votre santé financière ou quoi que ce soit. Mais à vrai dire, Dieu, lui, a un plan et il y a des dates qui sont préfixées, qui ont été prédéterminées par le Créateur de l'univers. Et quand nous arrivons à ces dates, nous nous trouvons à un portail. Vous et moi, et trois quarts du temps, nous ne le savons même pas. Je dirais que la conférence de prière est un portail pour nous. Je dirais que OAV Israël est un portail pour nous. Alors un portail, c'est quoi ? Ben, c'est une entrée. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais après ces dates, notre Église a changé. Notre vie a changé. C'est-à-dire que c'est une entrée, c'est pas simplement que, tiens, je passe une entrée. Non, c'est qu'il y a un changement et parfois le changement est radical. Si par exemple tu te trouves dans la rue, tu es dans une certaine atmosphère et quand, si tu passes par un petit portail, bon, peut-être que ce qui se trouve de l'autre côté du portail ressemble plus ou moins à l'atmosphère qu'il y a dans la rue, ça dépend. Mais parfois, tu franchis un portail et tu te trouves dans un autre monde. C'est-à-dire que nous sommes amenés dans ces choses-là. Ou je dirais, plus exactement, nous pouvons être conduits dans ces choses-là. Parce que Dieu ne force personne. Dieu a des rendez-vous divins pour tout le monde. Dieu a des dates qu'il a prédéterminées pour chacun de nous, parce que Dieu a un plan pour chaque être humain qui arrive sur cette terre. Avec des dates de changement, des dates de bénédiction, des dates de rencontre, des rendez-vous divins qui très souvent ont à voir avec des rendez-vous de personnes. J'en reparle tout à l'heure. Alors le titre de mon message, eh bien, il serait juste de dire « Les portails de 2017 ». Et quand tu penses à cette année 2017, eh bien, tu peux imaginer des portails que Dieu a placés devant toi, que Dieu a placés devant ta famille. Et ce que nous franchissons en Dieu, concernant dans le plan de Dieu, ça va être toujours ascendant. C'est-à-dire qu'avec Dieu, on ne recule pas. Avec le Seigneur, on ne fait pas marche arrière. On va toujours de l'avant, toujours plus haut, toujours plus fort. Vous imaginez que tous ceux qui ont une onction prophétique cherchent la face de Dieu avant le début d'une année ou avant le début d'un événement, avant le début d'un rendez-vous divin, pour savoir, mon Dieu, quelle est la parole que tu as ? Encore une fois, les cartomanciens, tout ce que vous voulez, ceux qui lisent les lignes de la main, ils vont essayer de chercher un futur et ils vont le voir dans les ténèbres. Mais si tu veux connaître ton futur, la Bible nous dit que notre vie, elle est cachée en Christ, cachée en Christ. Quand tu trouves Christ, tu trouves ta vie. Et c'est en Christ qu'il faut chercher notre futur, pas en demandant l'aide de ceux qui sont dans les ténèbres et qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez et qui vont vous donner un futur selon la chair. Ben, on en a un, notamment Kenneth Copeland. Kenneth Copeland est connu pour être un prophète. Alors, voici ce que le Seigneur lui a dit cette année à venir. Cette année à venir. Cette année à venir ne va ressembler en rien à ce qu'on a déjà vu jusqu'à présent. Je précise que très souvent, les phrases prophétiques ne sont pas forcément dans le meilleur français, hormis la traduction, mais ne cherchez pas un style parfait, parce que parfois les mots se touchent plus qu'autre chose. Elle est une année de fabuleuses effusions du ciel. Des miracles notoires se produisent. Ce que j'ai aimé, c'est que le temps est présent. Par les mains non seulement des cinq ministères, c'est-à-dire les prophètes, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants, mais par celles de tous. Les croyants imposeront les mains aux malades et des miracles notoires seront faits. Mais regardez ce qui va se passer avec les enfants. Observez les enfants être utilisés pour des miracles, car la puissance des miracles se manifeste autour d'eux. Ils ne sont que des enfants, ils ne seront que des enfants. Je ne parle pas de jeunes de 15 et de 20 ans, oui, eux aussi seront impliqués, mais dit le Seigneur, regardez ce qui se passe avec les tout petits. Un enfant les guidera. Beaucoup de choses se passeront dans le royaume de Dieu en 2017 et il n'en sera pas comme vous l'avez pensé. Ce sera plus grand et beaucoup mieux, un déversement comme vous ne l'avez jamais vu encore, dit l'Esprit de grâce. Il y a Valérie Di Pastino qui devait être parmi nous en novembre et qui n'a pas pu venir, mais elle a envoyé une parole de ce que le Seigneur lui a dit. Elle est connue pour aussi se tenir dans l'onction de prophète. Saison de connaissance et Dieu grands ouverts, Dieu qui discerne, année de très grande transition, de ce qui est libéré d'un pacte de réalisation, tant d'ajuster sa propre transition, tant de rédemption, tant qui conduit à un niveau plus haut dans le royaume, des portails, elle aussi. Et ça, je l'ai vu ce matin, hein, alors que mon message était déjà préparé. Et je crois que dans des groupes de prière, pasteur Elisabeth, il a été question de prier pour des portails. Des portails sont grands ouverts vers la gloire, transfert divin, onction de Dieu qui augmente la gloire. Il y avait plus encore, mais là, voilà, je vous donne l'essentiel. Et puis, Cindy Jacob. Alors, Cindy Jacob est une Américaine connue pour être une prophétesse. C'est connu, personne ne remet en question. Là aussi, la justesse de la parole qu'elle apporte de la part du Seigneur. Et il se trouve qu'elle a constitué un groupe de prophètes avec d'autres prophètes qui sont eux aussi connus. Je veux dire, c'est pas quelqu'un qui a mangé trop de pâtes et qui tout d'un coup a un rêve. Je parle pas de quelqu'un qui va donner une parole, ainsi dit l'Éternel, qui est toujours la même. Je ne parle pas de cela. Ce sont des gens qui sont reconnus, qui sont dans le ministère depuis longtemps, qui ont été testés et qui sont approuvés par d'autres serviteurs de Dieu. Et de ce groupe de prophètes, voilà ce qui est sorti quand ils ont cherché la face de Dieu. Je vous le lis ou pas? Non, je veux que vous ayez de l'expectative, hein, parce que cette parole est arrivée jusqu'à nous. Alors, il y a beaucoup de choses qui étaient dites, même concernant les États-Unis, donc là, je ne le dis pas. Mais ce qui concerne ce qui paraît pour moi être pour nous, et puis également des paroles précises pour la France, etc., là, je vous la donne. Alors, le 2017... Le symbolisme du chiffre 17, c'est vaincre et victoire complète. Dieu a vaincu les péchés des êtres humains rebelles quand il a commencé le déluge sur la terre le 17 du second mois hébreu. L'arche de Noé et ses 8 passagers s'est posée sur le mont Ararat le 17 du 7e mois, en plein milieu de la fête des tabernacles. Dans la Bible, on voit que le chiffre 17 parle de quelque chose qui est complet, évidemment parce qu'il y a le chiffre 7 dedans, et je reviens là-dessus. Jésus-Christ a remporté la victoire totale sur la mort et le tombeau quand le Père l'a ressuscité le matin du 17 du mois de Nissan. C'est le temps pour la percée de notre victoire. Il y aura une augmentation significative des miracles, des signes et des prodiges. L'onction sera si forte qu'elle brisera de grandes forteresses qui ont tenu des gens captifs pendant des années et qui ont dévasté des vies entières. En ce jour-là, alors là c'est Ésaïe chapitre 10 verset 27, il est dit « En ce jour-là, son fardeau sera ôté de ton épaule et de son joug de son cou. Tu seras si gras. » Et c'est pas qu'on gagne du poids. Le mot gras ici parle de l'onction, de l'huile. Tu seras si gras que le joug cédera. Est-ce qu'il y a des jougs dans ta vie? La Bible dit, cette année, eh bien, attends-toi à voir ces jougs tomber. Cette année, les bénédictions vont nous dépasser si nous obéissons à la voix du Seigneur. Si nos mains sont actives avec ce qui appartient au royaume de Dieu, nous commencerons à prospérer. Il est crucial que nous passions du temps à chercher le Seigneur pour que les bénédictions soient libérées grâce à notre relation ou à nos relations. Pour certains, il est question d'un déplacement géographique. Pour d'autres, il s'agit d'abandonner l'ancien pour le nouveau. Pour d'autres encore, cela implique de préserver les relations d'alliance, même lorsqu'elles sont testées. L'épée coupe l'ancien pour libérer le nouveau. L'ennemi a tenté de taillader beaucoup de relations afin d'empêcher la nouvelle mouvance d'unité qui vient vers les familles et le corps de Christ. Tandis que nous vivons de grandes percées à la fois personnelles et collectives, nous voyons la défaite de Satan dans plusieurs domaines. Cette année est une année de percées qui va libérer ce qui suit. Des manteaux ou onctions du Saint-Esprit qui ont été portés par des générations précédentes. Cette année, notre héritage est sécurisé. De nouveaux leaders seront reconnus et mis en avant. Des changements dans les gouvernements et de nouvelles alliances qui se forment. Plus ou davantage de corruption exposée à des niveaux nationaux. 2017 célèbre le 500e anniversaire de la réforme. Beaucoup de gens vont parler du besoin d'une réforme sociale et désireront devenir des réformateurs. Les jeunes gens se rassembleront pour former des mouvements qui montreront une passion pour aller dans chaque zone de leur culture et pour voir la réforme. Cela ouvrira la voie à la plus grande effusion de l'esprit et un réveil que le monde a jamais connu. Les nations qui n'avaient pas été touchées par la réforme en connaîtront une. Cela se produira sur tous les continents. Afrique, 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 tu entres dans ta plus grande heure, dit le Seigneur. L'Allemagne et la France seront grandement impactées par ce mouvement de Dieu. Des secousses économiques arriveront en Europe. L'Italie, l'Espagne et le Portugal seront éprouvées. Le peuple de Dieu sera pris en charge au milieu de la crise. Les alignements avec Israël seront cruciaux en cette saison. Il y aura une alliance renforcée entre les États-Unis et le Royaume-Uni. Les accords commerciaux qui seront conclus entre ces deux pays modifieront la balance commerciale. Dieu agit au sein du Parlement du Royaume-Uni et de fortes voix se lèveront pour parler en faveur d'alliances avec Israël. Brexit et Amérique, le transfert d'une outre à l'autre. Notez que cela ne signifie pas que Dieu ne fait rien au sein de la population de l'Union européenne. Les Nations unies. L'agenda politique et social extrême de l'ONU va devenir évident pour beaucoup de pays. Des pays qui aiment ce qui est juste résisteront à leur projet d'ingénierie sociale porté par le planning familial international et l'eugénisme. Les réformateurs qui possèdent une philosophie pieuse se lèveront pour être des voix fortes pour que se produise un réalignement éloigné de ce programme perverti vers celui qui offre une aide fondée sur la compassion, une aide sans connexion avec des organisations injustes. Des ambassadeurs qui sont des évangélistes, se lèveront sans honte pour l'évangile du Seigneur Jésus. Au sein de l'ONU, des pays qui aiment ce qui est juste mettront un terme au soutien des programmes sociaux radicaux qui promeuvent le style de vie homosexuel et l'avortement. Israël. Des signes et des prodiges éclateront dans de nombreux endroits. Nazareth et Raïfa verront la puissance de Dieu en grande démonstration. Les Juifs russes, vont connaître une grande récolte d'âmes et devenir des évangélistes puissants pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Les pays qui s'aligneront contre Israël se retrouveront dans un plus grand défi économique dans les prochains jours. Des pays cesseront de financer des initiatives des Nations Unies et des pays qui persécutent Israël. Israël deviendra un point d'inflammabilité à l'échelle internationale. Une confusion parmi des pays se produira et en même temps une polarisation accélérée de la lumière et des ténèbres. Cela démarrera un processus où l'évocation du mont du Temple redeviendra un problème central parmi les nations. Plus de secousses auront lieu dans le pays, mais Dieu va libérer un mouvement de jeunesse entre les Juifs et les Arabes qui uniront leurs voix dans le pays. France, les feux de réveil brûle. Le mouvement de Dieu a commencé et ne s'éteint pas. Il est temps que les prières des générations passées soient exaucées. Les prophètes vont se lever et parler de manière très précise. Voilà, ça c'est ce que ce groupe-là de prophètes a eu, et vous réalisez que je ne vous dis pas tout ce qu'ils ont eu pour les États-Unis. En relisant la parole qu'ils ont eue pour 2016, je peux vous dire que c'était exactement cela. Maintenant, 2017, ça c'est le calendrier romain, mais selon le calendrier biblique, depuis le 3 octobre 2016, nous sommes en 5777. Le chiffre 5 est le chiffre de la grâce. Alors là, je vous épargne beaucoup de détails, mais je vais résumer. Le chiffre 5 est le chiffre de la grâce. Je plains un peu ceux qui n'aiment pas le message de la grâce. Je ne sais pas comment ils font. Parce qu'on est ou sous la loi, c'est-à-dire on doit œuvrer, on doit tout mériter de Dieu, ou alors on est sous la grâce. Ça ne veut pas dire que l'on est passif parce qu'on exerce notre foi, mais on reçoit ce qui a déjà été accordé par le Seigneur. Le chiffre 7 représente ce qui est divinement complet, achevé, la perfection divine. Le chiffre 7 représente ce qui prend fin et ce qui commence. Le chiffre 7 a le sens d'accomplissement d'une période, d'un temps, comme pour les 7 jours de la semaine. Et ici, on a un triple chiffre 7 qui n'arrive qu'une fois tous les 1000 ans. Bon, là, on entend parler de quelque chose qui est achevé et évidemment, on retourne vers notre portail. Quand vous franchissez une entrée, quand vous franchissez un portail, il y a des choses que vous laissez derrière vous, mais vous acceptez de rentrer dans quelque chose qui est nouveau. Et quelque chose, ce qui est nouveau, est tellement nouveau que cela nous change en un clin d'œil. Moi, j'ai vécu des... Par exemple, je peux voir que quand Marc et Sarah ont reçu l'imposition des mains pour le ministère, je vois tellement de changements en eux depuis. Est-ce que je suis la seule? Tellement de changements. Il y a eu des périodes de ma vie où bien ça a été une rencontre, où ça a été une imposition des mains, ça a été un message, mais c'était des rendez-vous divins qui m'ont complètement changé, avec des changements plus ou moins rapides. La Bible nous dit que quelquefois, il y avait des hommes qui étaient changés en un clin d'œil au point que l'on se demandait, mais est-ce le même ? Donc quand on parle de grands changements pour cette année, il y a une raison à cela. Les chiffres en parlent, la parole prophétique en parle, ce qui est dans notre esprit en parle, et également le chiffre 7. Vous savez que chaque lettre en hébreu correspond à un chiffre. Et le chiffre 7 correspond au mot zaïn en hébreu, qui veut dire épée ou arme pointue. Alors, une épée ou arme pointue, on voit d'après la parole de Dieu que cela sert à trancher. La Bible nous dit que la parole de Dieu est comme une épée qui sépare ce qui est de notre âme de ce qui est de notre esprit, de notre cœur. Donc il y a des séparations qui sont en train de se faire, des bonnes séparations de la chair et de l'esprit. Et tout cela est dans ce chiffre 5777. Maintenant, bien sûr, on pense à notre pays, on pense à... Vous avez sans doute reçu le mail, tous les membres de l'Église, vous l'avez reçu en tout cas. Il s'agit de cette conférence qui va avoir lieu le 15 et qui cherche à changer les choses de manière radicale et notamment en divisant Jérusalem. Je suis tellement... J'ai honte que ce soit mon pays qui promeuve une initiative pareille. Et je suis furieuse pour vous dire la vérité. Parce que la Bible nous dit que Jérusalem ne peut pas être divisée. Elle ne peut pas l'être. Parce que c'est la ville de l'Éternel. Alors bon, ça n'est pas le moment de revenir sur tout ce qui concernerait cette ville. Mais ce qui est certain, c'est que nous devons prier pour que cette conférence de janvier, du 15 janvier à Paris, n'aboutisse à rien. Ça, c'est une des choses. Parce que la Bible nous dit... Celui qui bénit Israël est béni, celui qui le maudit est maudit. Peu importe, vous êtes d'accord avec tout ce qui se passe en Israël ou pas, laissez Dieu s'en occuper. Dieu, vous savez, c'est comme vous ne voulez pas que ce soit votre voisin qui corrige vos enfants quand ils font quelque chose de mal. Vous ne voulez pas que ce soit un inconnu dans la rue qui se mette à redresser vos enfants. De la même manière, laissez l'Éternel s'occuper du sort d'Israël. Mais en tout cas, notre rôle est de bénir Israël et surtout pas de le maudire. Et quand on cherche à diviser Israël, eh bien, on cherche à le maudire parce que la division parle d'affaiblissement dans ce cas-là. Ça n'est pas une séparation qui est saine dans le but de la multiplication, c'est une séparation dans le but de la division. Ceci dit, en ce qui vous concerne, vous et moi, citoyens français ou pas, c'est que quand nous entendons qu'il y a des choses à venir, des choses qui ont été préparées pour nous en tant qu'Église, en tant que corps sur la côte, corps spirituel sur la côte, en tant que corps de Christ en France et où que vous soyez, eh bien, il est évident qu'on veut entendre la volonté de Dieu. Vous n'avez pas envie d'entendre la volonté de Dieu ? Moi, j'ai envie d'entendre la volonté de Dieu. C'est-à-dire, je voudrais pas être celle qui passe à côté d'un portail et qu'il ne voit même pas parce qu'elle n'est pas fichue de le reconnaître. Ou alors, parce que je serais tellement occupée à autre chose que je passe à côté d'un rendez-vous divin. Alors, il y a des choses que l'on peut faire pour connaître la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour chacun de nous est bonne. Mais c'est vrai que la volonté générale de Dieu est écrite dans la Bible. Par exemple, Dieu veut que tout le monde soit sauvé. La Bible nous dit qu'il voudrait que tous parlent en langue, que nous soyons tous remplis du Saint-Esprit, remplis de la puissance de Dieu à déborder. La Bible nous dit qu'il veut que tous les malades soient guéris. Il veut que tous nous marchions dans la grâce, que nous ne cherchions pas à mériter quoi que ce soit. La Bible nous dit aussi qu'il a pourvu à tous nos besoins. Bon, ça c'est général. La Bible nous dit qu'il veut que nous prions pour les autorités, quelles qu'elles soient. Donc, il y a beaucoup de choses qui s'adressent à tout le monde et qui sont écrites noir sur blanc dans la parole de Dieu. Ceci dit, pour le plan que Dieu a pour ta vie, par exemple, dans quelle école amener tes enfants? Quelle voiture acheter? Peut-être que tu veux la sagesse de Dieu sur la maison ou l'appartement que tu voudrais acheter ou louer. Il est bon de chercher le conseil de Dieu. Le conseil de Dieu est bon. Et quand Dieu nous donne un conseil sur notre vie, ça n'est jamais en fonction du moment présent. Ça a toujours à voir avec les mois et les années qui suivent parce que Dieu est le Dieu de toute éternité. Combien d'enfants avoir? Quand avoir des enfants? Ça, ce sont des questions qu'il faut poser au Seigneur. Mais ça, ce sont des questions pour lesquelles vous ne trouverez pas de réponse dans la Bible, dans la parole de Dieu. Il va falloir que l'on entende la voix de Dieu, personnellement, concernant la volonté spécifique pour chacun de nous. Par exemple, quel métier exercer? Est-ce que je devrais me lancer ma propre affaire ou est-ce que je dois encore attendre? Est-ce qu'il est bon que je parte maintenant que je quitte cet emploi ou au contraire, faut-il que je reste encore? Personne ne peut répondre à ces questions pour vous. Vous devez trouver les réponses personnellement à la volonté spécifique de Dieu pour votre vie. Alors, en général, on veut entendre la volonté spécifique pour notre vie sans prendre l'habitude d'entendre la parole générale de Dieu tous les jours. C'est-à-dire que les gens veulent entendre ce qui relève de la volonté de Dieu pour leur vie, mais ils ne cherchent pas à entendre la volonté de Dieu pour ce qui concerne les sujets d'ordre général. Pour ce qui concerne sa volonté en général, c'est-à-dire ils veulent entendre une parole de Dieu pour leur vie, mais ils ne veulent pas de la parole écrite de la Bible. Et ça, mes amis, ça ne marche pas comme cela. Parce qu'il est il y a beaucoup d'heures qui sont perdues dans le jeûne et la prière. Beaucoup de gens perdent du temps dans le jeûne et la prière, beaucoup. Il ferait mieux d'aller, je ne sais pas moi, au cinéma ou ce qu'ils veulent, voir un bon film. Pas d'horreur ni de guerre. Pourquoi? Parce qu'ils passent beaucoup d'heures à chercher la volonté spécifique. Mais parce qu'ils n'ont pas la volonté, ils ne sont pas habitués à la voix de Dieu concernant les sujets généraux, les thèmes généraux de la pensée de Dieu, ils mettent du temps à trouver la volonté spécifique. Et ils passent des heures, et on jeûne, et pendant ce temps, ceux qui sont habitués à entendre la volonté de Dieu concernant les choses générales, dès qu'il s'agit d'entendre la volonté, de chercher la volonté de Dieu dans un domaine spécifique de leur vie, clink, ils la trouvent et ils mangent bien à côté. Alors, si je vous posais la question, est-ce que la voix de Dieu a de la valeur pour vous? Oh. Alors, je ne vais pas vous demander de lever votre main. Je suis pratiquement sûre que tout le monde répondrait oui. Mais maintenant, si je vous demandais combien de temps accordes-tu à entendre la voix de Dieu? Non, ne répondez pas. Alors, le mieux, c'est de chercher à entendre la voix de Dieu pour tous les sujets d'ordre général. Par exemple, aujourd'hui, vous avez des gens, des chrétiens qui sont malades et qui en sont encore à se demander si Dieu veut les guérir. Et ils cherchent, et ils prient, et ils vont à l'imposition des mains, et ils vont voir tous les prophètes, et ils ont vu tous les pasteurs. Ils ont dit, est-ce que Dieu veut me guérir? Et parce qu'il y a des doutes, très, très souvent, ils passent à côté de leur guérison. C'est écrit noir sur blanc. Depuis 2000 ans, Jésus est allé à la croix pour payer pour le pardon de nos péchés et pour que nous soyons en bonne santé. Bonne santé inclut la guérison. Il n'y a même pas à demander, Seigneur, veux-tu me guérir? Non, il y a beaucoup de gens qui perdent du temps parce qu'ils ne savent pas cela. Alors, pour être très sensible à la voix de Dieu concernant les choses spécifiques de notre vie, il est indispensable que nous nous habituions à entendre la voix de Dieu dans les Écritures. Pour cela, eh bien, je vais vous encourager cette année à fixer un rendez-vous avec Dieu. Est-ce que je peux avoir Exode chapitre 19, verset 10? Et ensuite, ce sera le verset 19. Et entre-temps, vous pourrez, entre les versets, vous pourrez remettre les portails. Ça vous aide d'avoir des images? Il est beau, il y en a de belles. Hein, dites donc. Parce que quand on dit que Dieu a des changements pour nous, les gens, en général, ils pensent à une toute petite entrée qui ressemble plus à une meurtrière qu'autre chose. Mais Dieu a de grands changements et tu réalises que moins tu connais la volonté de Dieu, moins tu connais ton Dieu, plus tu as des difficultés à penser grand, à rêver grand et tu ne pourras pas entrer, passer par ces portails immenses si tu ne sais pas ce que Dieu a pour toi. Ton attention ne s'arrêtera que sur de petites entrées, de petits changements, de petites choses à recevoir de Dieu. Il est dit, ils prirent de la cendre de fournaise, et ce Exode, chapitre 19, verset 10, c'est pas le bon. Une éruption de pustules et tout ça, non, c'est pas pour nous. Je peux avoir chapitre 19, voilà. Ok, l'Éternel dit à Moïse, va vers le peuple, sanctifie-les aujourd'hui et demain, qu'ils lavent leurs vêtements, verset 19. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ce que l'on voit ici, c'est que le Seigneur a voulu leur dire quelque chose. Pour cela, il leur a demandé de se préparer. Il y a des choses que vous et moi n'entendrons pas spécifiquement, à moins que nous ne préparions notre cœur en entendant la volonté générale de Dieu. Le Seigneur les a préparés, il leur a fixé un rendez-vous, c'est-à-dire qu'on pourrait dire que Dieu vient dans une atmosphère préparée. Quelqu'un qui passe son temps à lire les journaux, quelqu'un qui passe son temps à regarder la télé, qui ne s'intéresse jamais à la volonté générale de Dieu telle qu'elle est écrite dans les Écritures, le jour où il va poser au Seigneur une question concernant un sujet spécifique de sa vie, il n'arrivera pas à entendre la volonté spécifique de Dieu. Parce qu'il aura tout le brouhaha du monde. Il n'entendra que l'opinion du monde et il aura beaucoup de difficultés à entendre la volonté spécifique de Dieu. Quand nous sommes habitués à lire la Bible, que nous avons un rendez-vous avec Dieu, tous les jours où nous lisons la parole de Dieu, eh bien le jour où nous avons besoin d'une réponse concernant un sujet personnel, eh bien notre cœur est déjà préparé. Tu sais, Dieu veut te parler plus que ce que tu veux de réponse. Et quand Dieu nous donne des réponses, il aimerait qu'elles soient aussi précises que possible. Alors, il faut que tu te demandes, ok, cette année, je vais fixer un rendez-vous avec le Seigneur, je vais préparer mon cœur de manière à ce que quand j'ai besoin d'entendre sa volonté spécifique pour ma vie, eh bien mon âme soit déjà prête. Tu dis, quel est le meilleur moment pour avoir un rendez-vous avec Dieu? Alors, c'est à toi de décider quand est ce meilleur moment. Quelle est la meilleure heure à laquelle tu puisses t'approcher de manière tangible de Dieu? Très souvent, on voit que c'est le matin, avant d'avoir commencé la journée. La deuxième chose, regardez avec moi dans le psaume 46, verset 10, une fois encore, cette année, on ne veut pas louper les changements que Dieu a pour nous. Il n'y a rien de pire que de voir quelqu'un au bout de 10 ans et que cette personne nous dise « Ah, t'as pas changé, tu sais ». Bon, c'est bien si cette personne nous dit ça d'un point de vue physique, on dit « Waouh, gloire à Dieu, magnifique, magnifique ». Mais si cette personne, moi j'ai entendu cela, que l'on dise de quelqu'un qui a un caractère qui n'est pas agréable, qu'on dise au bout de 10 ans, il n'a pas changé celui-là, c'est toujours le même. Ou qu'une personne reste paresseuse 10 mois après, ou qu'une personne reste colérique 5 ans après, ou qu'une personne reste ceci ou reste cela, ou est toujours les mêmes peurs 8 ans après, mes amis, c'est une personne qui ne rencontre pas son Dieu. Parce que nous sommes changés au contact de Dieu. Il est dit dans au psaume 46, verset 10, « Arrêtez, décidément 46, verset 10, il est dit « Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu, je domine sur les nations, je domine sur la terre. » Dans deux, alors, quand il est dit « Arrêtez et reconnaissez », une autre version, voilà. C'est des versets 11 dans cette version. « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Vous savez, nous sommes une génération qui a énormément de difficultés à se mettre en pause. On est suscité, continuellement suscité. Il n'y a pas très longtemps, on a reçu un couple d'amis à la maison. Je vous assure, ils n'ont pas lâché leur téléphone. Alors, je voulais pas embrouiller les pistes et je me suis dit, bon, mais ils n'ont pas arrêté. Tout était prétexte à consulter. Attends, je te donne l'adresse, clac, clac, là, au téléphone. Là, là. C'est du style, mais tu ne peux pas me le donner demain, c'est pas pressé, laisse ton téléphone. On est continuellement suscité. Cette semaine, vous êtes libre. Cette semaine, nous avons fait le jeûne de tout ce qui est technologie. C'est-à-dire que nous avons, c'était tous les membres de l'Église ont reçu une annonce, mais tous les débuts d'année, c'est ce que nous faisons à l'Église, la bonne nouvelle. Nous voulons nous désintoxiquer. C'est-à-dire que nous avons utilisé les médias et moyens technologiques uniquement que pour le travail et l'essentiel. Évidemment, ce qui concerne l'Église a à voir avec le travail, mais par exemple, chercher une recette de cuisine, bah, c'était non. C'est-à-dire aller au cinéma, bah, c'était non. Regarder les informations à la télé, c'était non. Moi, très souvent, quand j'arrive dans ma voiture, je cherche des chaînes d'information de manière à me tenir au courant. Bah, c'était non. S'amuser avec sa tablette, c'était non. S'amuser avec son téléphone, c'était non. Alors vous dites, oh, moi j'ai pas fait ça. Tu peux recommencer cette semaine. T'es un peu en retard, mais... Et tu sais quoi? Les gens se rendent compte à quel point ils sont accros. Parce qu'on peut dire, oh oui, mais tu sais, c'est juste pour regarder. Non, 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 non. Juste l'essentiel. Est-ce que tu peux te servir de ces moyens technologiques uniquement que pour l'essentiel? Certains arrivent à l'église, ils n'arrivent même pas à arrêter d'envoyer des SMS. Ils n'arrivent pas à se priver de leur téléphone. Et je vais juste vous le dire. Quand vous venez chercher la face de Dieu, c'est ce qu'on vient tous ensemble à l'église. Mettez de côté votre téléphone. Oui, tu sais, j'attends un coup de fil. Il peut attendre. Tu as besoin d'entendre une parole de Dieu, une parole qui veut changer sa vie. Et il faut que l'on réapprenne ce qu'est l'honneur. On honore Dieu. C'est pas un pote. Alors, 2 Chroniques, chapitre 20. Écoutez ça. Donc, 1, on veut fixer un rendez-vous avec Dieu. Et la première chose que l'on veut faire, c'est pause. On va se mettre en pause, on s'arrête et on adore. 2 Chroniques, chapitre 20, verset 17. Et puis ensuite, 21 à 23. Il est dit, vous n'aurez pas à y combattre. Présentez-vous, donc il y avait des armées ennemies devant le peuple. Vous n'aurez pas à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point, et vous ne serez point effrayés. Sortez à leur rencontre, dit l'Éternel, et l'Éternel sera avec vous. Versets 21 à 23. Il se concerta avec le peuple pour établir des gens qui précéderaient les hommes d'armes en célébrant le Seigneur, en louant sa sainteté. Et au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. C'est-à-dire que les ennemis se sont détruits entre eux et ils ont oublié la cible de leur vindication. C'est-à-dire que quand nous voulons passer du temps avec le Seigneur et que nous venons pour l'adorer, le Seigneur s'occupe de nos affaires pendant ce temps. Il est celui qui règle nos problèmes tandis que nous le gardons au centre. Alors vous allez dire, oui mais je vais prier. Je vais prier pourquoi ? Parce que on se met devant l'Éternel et on attend dans sa présence, on lit un peu des Écritures. Personne ne vous demande de lire toute la Bible tous les jours. D'ailleurs, est-ce qu'il y a eu tous les ans, on invite les gens à lire la Bible en un an ou le Nouveau Testament en un an ? Je vais demander qu'il y ait des photocopies qui soient faites. D'accord, donc si vous voulez recevoir le Nouveau Testament ou la Bible, demandez à Sarah et elle vous l'enverra par email. Et pour ceux qui ne sont pas à l'aise avec Internet, allez la voir parce que la semaine prochaine, vous l'aurez. Mais lisez la parole de Dieu, décidez que ça va être un temps de pause. Ça n'a pas besoin d'être une heure, mais c'est un réflexe que l'on a. Et quand on prie pourquoi ? On ne prie pas pour la terre entière. Vous savez, du style, celui qui bénit son repas. On dit, est-ce que tu veux bénir le repas ? Et il commence par prier pour les autorités, il commence à prier pour la santé de ceci, il commence à prier pour son chat qui est malade, il commence à prier pour les finances, et là, 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 et là, 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 et trois quarts d'heure après, le repas est froid. Merci Seigneur pour la nourriture qui est sur cette table. Non, ce n'est pas cela. Ne priez jamais comme cela, parce que si je suis à table avec vous, je lancerai un amen au bout de deux secondes, ou alors quand vous levez les yeux, vous ne me verrez plus. Mais souvent les gens n'ont pas de relation avec Dieu, et quand ils sont en public, ils se sentent obligés de montrer qu'ils en ont une, et tout le monde a compris qu'ils n'en ont pas. Ça va faire du bruit, ça, non ? Il fait froid. Priez pourquoi ? Ben, priez pour ce qui est sur votre cœur. Priez pour ce qui vous préoccupe pour cette journée. Par exemple, moi je fais une liste. Je fais une liste de toutes les choses que j'ai à faire. Et je coche au fur et à mesure et je l'établis par ordre de priorité. C'est-à-dire ce qui est le plus important. Il y a des choses que je continuais à remettre et à remettre et à remettre. Et à un moment je dis stop, je vais le faire. Et j'avais pas envie. Et j'ai dit Seigneur, D-Day. Aujourd'hui, ça m'agace, il faut que je m'occupe de cela, il faut que je le fasse, je te demande de le faire. Quand on prie, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on parle à Dieu des choses qui nous préoccupent. Parlez de votre enfant, qui sa santé peut-être vous préoccupe. Parlez de tel contrat que vous devez signer. Ne partez pas seul, signez un contrat, amenez Dieu avec vous. Mais impliquez Dieu dans vos démarches administratives. Demandez à Dieu de l'aide dans les relations que vous avez avec votre famille, au travail ou autre. Mais ce moment-là, c'est le moment pendant lequel vous allez parler au Seigneur de ce qui est sur votre cœur. Il y a un troisième point, c'est écouter et écrivez. Psaume 45, verset 2. Pendant votre temps avec Dieu, psaume 45, verset 2, il est dit, pendant des années, j'ai confessé ce verset. Mon cœur bouillonne de belles paroles. C'est-à-dire que quand on lit la Bible, on trouve ces paroles et notre cœur est rempli de ces paroles. Verset 2, peut-être 1, ou remonte, peut-être. Voilà, c'est ça. Parce que ça dépend des versions, ça change. Hein. Donc des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un écrivain. C'est-à-dire, eh bien, ce que tu lis, ce que tu pries, écris-le. Regardez encore, il faut savoir que celui qui a écrit ce psaume, David, a écrit 150 poèmes. C'est-à-dire qu'il écrivait ce qu'il avait, ce qui lui venait à l'esprit pendant ses moments avec Dieu. 1 Chronique, chapitre 28, verset 19. Il est dit, tout cela se trouve dans un écrit de la main du Seigneur qui m'a fait comprendre tous les ouvrages du plan. Donc ici, l'auteur dit, eh bien, le Seigneur m'a fait comprendre les ouvrages du plan et je les ai mis par écrit. Habacuc chapitre 2, verset 2. L'Éternel me répondit en ces termes. Écris une vision, grave-la sur des tablettes, afin qu'on la lise couramment. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu vas faire? Pendant ton temps avec le Seigneur, tu vas lire un peu des Écritures, tu vas diriger ton cœur intentionnellement vers le Seigneur, tu vas écrire ta prière à Dieu quand tu pries, tu écris ta prière à Dieu, tu écris ce que tu penses, et tu écris ce que le Seigneur te donne comme réponse. On l'a compris, oui, il y a des portails. Mais tout le temps que nous passons avec le Seigneur, c'est un temps... La Bible nous dit, alors j'ai pas le temps de revoir cela, mais la Bible nous dit que quand nous avons accepté le Seigneur Jésus, eh bien notre être intérieur est parfait. Notre cœur est parfait, notre cœur est renouvelé, rempli de sa vie. La Bible nous dit que notre cœur est sans péché. Le problème, c'est avec notre âme, pas tellement avec notre corps. Notre corps, il fait ce qu'on lui dit. Quand, si quelqu'un a une âme qui est faible, alors il n'a pas la volonté de dire à son corps, tu as trop mangé, ou au contraire, tu dois continuer, ou non, ne mange pas de ci, ou non, ne regarde pas ça, ou non, ne fais pas ça. Donc, notre esprit, tout va bien à l'intérieur. Mais, par exemple, les gens qui, en 2016, ne se sont pas exercés à rejeter le compromis. Les gens qui ont continué dans le compromis ont affaibli leur âme, ont affaibli leur capacité de décider, ont affaibli leur volonté. Et quand il s'agit de faire des choix spirituels comme accepter un changement de Dieu ou simplement aller dans le changement de Dieu, ils sont incapables de franchir le portail. Le portail. Ça y est, un autre peut-être, quelque chose de plus beau. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui sont leurs propres ennemis. Ce n'est pas le diable qui les empêche de faire des exploits pour Dieu. Ça n'est pas le diable qui dit, oh tu comprends, et certains chrétiens on entend, le diable. Non, le diable est un ennemi vaincu. Quelqu'un qui a perdu n'impressionne personne. C'est leur propre chair, c'est ce qui en eux n'est pas renouvelé par la vérité de Dieu. Il y a des portails qui se présentent à nous pour les affaires. Si tu te fies aux apparences, s'il faut, tu passes à côté de ce portail parce que la personne avec qui tu dois signer ce contrat, eh bien, ne va peut-être pas te plaire. Tu vas dire, oh, tu sais, non, regarde, c'est un petit truc. Certains vont passer à côté du portail parce qu'ils sont tellement occupés avec le monde, tellement occupés avec les choses du monde. Le portail, c'est une entrée qui est spirituelle. Spirituelle, mes amis. Que l'on trouve en Dieu. C'est Dieu qui fait des exploits à travers nous. Des relations, tout à l'heure il y avait la prophétie qui parlait des relations d'alliance, des relations qui ont été testées. Oui mais tu comprends, ça c'est pas aussi bien et moi je préfère l'autre. Si Dieu t'a dit quelque chose, d'être connecté avec quelqu'un, il vaut mieux que tu restes parce que ton futur en dépend. C'est aussi simple que cela. Parce que dans cette relation, il y a des portails qui sont ouverts. Et change, sépare-toi des relations que Dieu a établies dans ta vie et tu vas te demander pourquoi il n'y a plus grand-chose qui bouge. Pourquoi tu ne vois plus autant de choses? Moi, j'ai décidé, tout ce que le Seigneur a comme portail, comme changement, comme manifestation dans ma vie, je veux tout. Je ne veux pas la moitié, je ne veux pas les deux tiers, je ne veux pas les trois quarts, je veux tout. Tout, 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 à tous les niveaux de ma vie, personnel et ministère. Il n'y a pas 36, hein, si. Et tout ce qui comprend ces deux domaines. Je veux tout. Je veux tout, je veux tout, je veux tout, je veux tout, je veux tout. Je vous donne rendez-vous fin 2017 et vous aurez quelqu'un de différent ici. Je ne serai plus au même endroit. Bon, ça, c'est ce que je veux, moi, parce que je sais ce que le Seigneur a pour moi. Année de grâce, cette épée qui sépare ce qui n'est pas de Dieu de ce qui est de Dieu, ce qui n'est pas de juste assez à plus qu'assez. Il y a plein de séparations, plein de bonnes choses. Et ce qui est complet. Je veux rentrer dans ce qui est complet, dans ce qui est achevé que Dieu a pour moi. La question est, toi, que vas-tu faire? Parce que personne ne peut y aller à ta place. Tu sais, vous avez beau être marié, vous avez beau être né dans une famille de chrétiens, chacun entre par les portails que le Seigneur lui a donnés individuellement. Mais il y a de bonnes choses. Et je vais vous encourager, c'est une année de grands contrastes. Ne vous laissez pas effrayer par ce que vous entendrez dans le monde. Ceux qui sont sans Dieu s'éloignent de plus en plus, je l'ai écrit, de la sagesse et de la lumière. De plus en plus. Et ils vont faire des choses qui vont être horribles et qui vont être stupides. Mais pour ceux qui restent du côté de Dieu, ne vous laissez pas effrayer par les horreurs que l'on peut entendre. Continuez à marcher avec Dieu. Passons du temps avec le Seigneur chaque matin. On passe du temps avec Dieu, on écrit, on communique, il nous transmet sa sagesse, il nous transmet sa lumière. Et à la fin de l'année, on sera plus fort que jamais. Amen. Amen.